Amen. Est-ce que nous pouvons donner une meilleure acclamation à notre Seigneur? Amen. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est notre joie, il est notre force. Il est digne de louange, il est digne de gloire. Il est le Tout-Puissant, c'est lui qui nous encourage. Il est notre repos, il est au contrôle de toutes les situations qui nous effraie. Seigneur, nous te disons merci, notre berger, le bon berger. Oui, celui qui guérit nos âmes, celui qui essuie nos larmes, notre force. En toi, nous pouvons placer toute notre confiance et nous ne serons jamais déçus. Merci, tu relèves nos têtes. Merci de parler à ton peuple, ô Dieu de gloire. C'est ta parole qui guérit, c'est ta parole qui libère, c'est ta parole qui instruit. Merci de nous assister, Saint-Esprit, d'être avec chacun de nous, l'orateur comme l'auditeur, ô Jésus, afin qu'ensemble nous fassions, ô Dieu de gloire, ce qu'est notre part, ô Dieu Tout-Puissant, d'écouter et d'obéir à ta parole. Merci de bénir ces moments, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce dimanche matin, ce jour merveilleux qu'il nous donne pour nous assembler dans sa présence. Et nous disons aussi merci à notre pasteur qui nous fait encore confiance pour apporter la parole ce matin et nous le saluons là où il nous suit, ainsi que maman Gisèle. Gloire au Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons faire quelques lectures et ensuite je vais donner le thème. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Et 35 jusqu'au chapitre 10, premier verset. Ensuite, nous lirons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et nous terminerons par Matthieu 28. Matthieu, chapitre 9, verset 35. La Bible dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Nous prenons la seconde lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du premier et deuxième verset, nous allons sauter quelques versets. Vous pourrez lire tout le chapitre à la maison. Nous savons en effet, c'est l'apôtre Paul qui parle, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il parle du corps bien sûr, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi, nous gémissons dans notre tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous prenons le 11e verset. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Je prends le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et la dernière lecture, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, nous pouvons prendre le 18e verset. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Et nous prendrons, je nous propose comme thème, l'Évangile progresse toujours par des chrétiens convaincus. Alléluia. L'Évangile progresse toujours, l'Évangile avance toujours. Le royaume de Dieu s'agrandit toujours par des chrétiens convaincus. C'est important de le savoir. Et l'objectif de ce message, c'est de maintenir l'Église, de maintenir les chrétiens dans cette flamme de l'évangélisation. Maintenir les chrétiens, maintenir l'Église dans cette flamme de l'évangélisation, dans ce qu'on appelle aussi la vocation missionnaire. Tourner, le fait d'être tourné vers les perdus pour leur apporter la parole de Dieu. C'est très important. Et du reste, une église qui n'évangélise pas, nous sortons tout droit d'une action évangélique. Il y a quelques jours, nous avons eu toute une semaine d'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, c'est une église qui se meurt parce qu'elle n'accomplit pas la mission que le Seigneur lui a donnée. L'église a trois missions, essentiellement. La première mission, c'est d'adorer le Seigneur, l'adoration. Nous sommes sauvés pour servir, et le pasteur nous en a parlé il y a quelques semaines, sauvés pour servir, et le premier service important de l'Église que Dieu attend, autant de l'Église locale, l'ensemble des chrétiens, autant des individus sauvés, rachetés par son sang, c'est l'adoration. Amen. Et la seconde mission de l'Église, c'est l'édification. S'édifier, se fortifier, se construire. Construire dans les ans ceux qui sont nouvellement accueillis, les aider à grandir, à devenir des disciples, à servir le Seigneur, à connaître ce que le Seigneur attend d'eux, à expérimenter toutes les grâces divines. Et troisièmement, c'est cette mission importante, jamais négligeable, que l'on ne devrait jamais négliger, c'est être tourné vers les perdus pour sauver, pour participer à cette mission du salut. Car nous aussi, nous étions de l'autre côté. Amen. Nous aussi, nous étions de l'autre côté. Et le Seigneur nous a tendu cette perche, si l'on peut dire, son bras, pour nous sauver. Donc, il est très important de savoir que, en réalité, cette mission d'évangéliser n'est que la prolongation ou la suite logique du travail que le Seigneur a accompli en nous par la puissance du Saint-Esprit lorsque nous avons été sauvés. C'est tout à fait normal qu'un chrétien évangélise. Et un chrétien qui ne partage pas sa foi ne peut s'épanouir véritablement, ne peut expérimenter des percées spirituelles dans sa marche. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il libère afin que le Seigneur ajoute et qu'il libère encore et que le Seigneur ajoute encore. Alléluia. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de lire le témoignage d'un serviteur de Dieu qui m'a fait beaucoup de bien pendant que j'ai préparé le message. C'est un Américain, Scott McCarthy. Écoutez ce qu'il dit dans son témoignage. C'est une petite lettre. « Papa, maman, hier soir, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Il a pardonné tous mes péchés et m'a donné la vie éternelle. J'irai au ciel et je veux que nous allions tous au ciel. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur, vous irez en enfer. » Et il dit, cette lettre à mes parents et ma première expérience d'évangélisation personnelle, pleine de fougue et bien peu diplomatique. Mon père s'est converti une semaine après, et ma mère est revenue au Seigneur. Je ne savais même pas qu'elle était chrétienne. Le savait-elle elle-même ? J'avais 16 ans et depuis, le virus de l'évangélisation personnelle ne m'a pas quitté. Alléluia. Voilà les témoignages que nous donne un serviteur de Dieu, touché par ce que le Seigneur avait fait pour lui. Il n'est pas allé loin, c'est à ses parents. Il n'a peut-être pas utilisé la bouche, il était loin de ses parents, il a écrit. Depuis le début de l'Église jusqu'à nos jours, comme je l'ai dit tantôt, le royaume des cieux s'agrandit par la volonté du Seigneur, bien sûr. Et il a dit à Pierre, tu es Pierre, dans Matthieu 16, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Depuis les débuts de l'Église, depuis la Pentecôte, le royaume de Dieu s'agrandit par la volonté du Seigneur, par l'action puissante du Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi parce qu'il y a eu des chrétiens convaincus. Alléluia! Il y a eu des chrétiens convaincu. Je l'ai déjà dit une fois, le mot chrétien est tellement mis dans toutes les sauces qu'aujourd'hui, à côté des chrétiens, il faut toujours ajouter un qualificatif. Ce n'est plus comme au premier siècle, bien que la parole de Dieu n'ait pas changé dans son étymologie. Chrétien ou christianie, c'est petit Christ. Acte 11, 26. Lorsque les disciples étaient appelés chrétiens, c'est parce qu'on voyait en eux des petits Christ. Alléluia. C'était des Christ qui se reproduisaient par leur caractère, par leur vie, mais aussi par la puissance de la parole et de l'évangile qu'ils communiquaient. Mais aujourd'hui, on a développé toutes sortes de mots autour des chrétiens. Chrétiens non pratiquants, chrétiens ordinaires, chrétiens de dimanche. C'est pourquoi, quand on parle de la chrétienté, pour mieux faire passer le message parfois, pour mieux s'expliquer, il faut quand même ajouter chrétien authentique. Alléluia. Ou chrétien convaincu. Je dirais même convaincu jusqu'à la moelle épinière. Alléluia. L'Église a avancé. L'Évangile a progressé parce qu'il y a eu des chrétiens convaincus. Des gens qui, comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, lorsque Paul exhorte son fils Timothée, il lui dit « Prêche la parole en tout temps, en toute occasion, favorable ou non. » Les premiers disciples ont prêché la parole de Dieu dans les occasions favorables comme dans les occasions défavorables, en temps normal comme dans les fortes persécutions. Ils se sont saisis de toutes les circonstances pour propager la bonne nouvelle. Ils ont bravé toutes sortes de persécutions et de tribulations. Après eux, s'élevait la génération des pères de l'Église, ceux qui ont vécu avec les apôtres, les pères de l'Église, eux aussi ont servi avec courage pour établir beaucoup de doctrines, des points doctrinaux que nous défendons aujourd'hui. Un bon nombre, ce sont les pères de l'Église qui les ont rassemblés à travers des conciles. Il y a toujours eu des gens qui se sont levés pour faire avancer le train de l'Évangile. Et après ces générations, il y a eu des périodes sombres, mais les réformateurs se sont levés. Presque un millénaire après, les réformateurs se sont levés parce que l'Église sombrait dans toutes sortes de pratiques, de l'achat, du salut, les indulgences. Les gens comme Luther s'est levé avec ses 95 thèses pour défendre le salut par la grâce et par la foi, pour défendre que seules les Écritures devraient être considérées. Et après, plusieurs autres, il y a eu les courants des sociétés missionnaires. Des missionnaires se sont levés. Les grands mouvements de l'évangélisation. Il y a toujours eu des courageux qui se sont levés. Il y a eu des gens qui se sont levés pour, au début de la technologie, commencer à prêcher au travers des médias, des télévisions et des radios. Il y a eu des chrétiens convaincus, rongés par l'évangile, pressés par l'amour de Dieu pour les autres, qui se sont dit, on ne va pas se taire, on va tout utiliser pourvu que l'évangile progresse. Et bien sûr, il y a plus près d'une trentaine d'années, les premiers sites chrétiens apparaissaient sur Internet. 25-30 ans, il y a toujours eu des courageux qui se sont levés pour faire quelque chose. Oui, Dieu attend de son Église, attend de nous tous que nous manifestions un courage qui nous porte vers les autres, à partager la foi en Jésus. Nous ne serons peut-être pas tous comme ceux-là que je viens de citer, des héros pour des multitudes, mais nous pouvons partager comme ce jeune homme, à papa, à maman, à mon frère, à ma sœur, à mon collègue de service, à mon camarade à l'université, à mon ami étudiant ou élève, à mon collègue médecin, à mon confrère avocat ou architecte. Nous pouvons partager la parole de Dieu à chacun. Chacun peut partager. Comme je l'ai dit, nous ne serons pas peut-être les héros pour plusieurs, mais nous serons les héros pour ceux à qui nous avons partagé la parole de Dieu. Amen. Oui. Alors, le Seigneur a besoin de chrétiens convaincus pour faire avancer le train de l'Évangile. Et comme la parole de Dieu nous le confirme dans Matthieu chapitre 24, verset 14, l'annonce de l'Évangile, non seulement qu'elle fait la joie du ciel, mais l'annonce de l'Évangile a un lien direct avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 24, 14 dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Par l'annonce de l'Évangile autour de vous, vous contribuez à hâter la venue de votre maître, à hâter la venue de votre Seigneur, à hâter la venue du Fils de Dieu. Alors, quel est ce chrétien convaincu? De quoi a-t-il été convaincu pour devenir un agent majeur de l'expansion du règne de Dieu sur la terre? Premièrement, nous rentrons dans notre texte. Le chrétien convaincu, c'est celui qui rejoint le Seigneur Jésus dans sa vision des âmes ou des êtres humains dans le monde. Amen. Le chrétien convaincu est celui qui voit le monde comme Dieu le voit, comme Jésus le voit. Qui voit le monde comme Jésus-Christ le voit. Il ne voit pas simplement avec les yeux physiques. Alors comment Jésus-Christ voit le monde? Matthieu 29, 35, nous avons dit, ou 36 directement, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ça, c'est la vision du Seigneur. Autrefois, lorsqu'il parcourait toutes les rues d'Israël, mais cette vision n'a pas changé. Cette vision n'a pas changé. Le Seigneur voit les foules et en est ému de compassion. Il les voit comme abattus, fatigués, comme des brebis sans berger. C'est comme un serviteur de Dieu a écrit, Billy Graham a écrit un monde en flammes. Un monde en flammes. Le Seigneur ne voit pas le monde, il n'est pas impressionné par les constructions des hommes. Les tours aux 2300 ou combien, aux 800 étages, n'impressionne pas Dieu. Il ne se met pas là du haut de son trône et regarde. Ah, 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 ah. Les hommes sont terribles. Ouh, magnifique. Non, ça c'est les hommes, ça c'est les regards humains. Il n'est pas impressionné par les voitures dernier cri. Ouh, formidable. Il n'est pas impressionné par la qualité des tissus ou par l'imagination des stylistes et modélistes. Ouh là là, quel vêtement. Non, Dieu n'est pas impressionné par ce qui impressionne les hommes. Il voit plus loin. Alléluia. Il voit les cœurs. Il voit les âmes. Les disciples ont essayé, dans Matthieu 24, 1 à 3, essayer de lui montrer les constructions et les grosses pierres du temple. Là. Seigneur, regarde les constructions. Ben lui, il a profité pour leur rappeler qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ces constructions. Et il a profité pour leur donner un enseignement de près d'une cinquantaine de chapitres dans Matthieu 24 sur les temps de la fin pour leur montrer qu'après cette vie sur cette terre, il y a l'éternité. Alléluia. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Ses entrailles ont bougé. C'est comme des brebis sans berger. Non, il n'est pas impressionné même par sa propre création. Il sait que cette création qu'il a formée, qu'il a appelée à l'existence, a été marquée par la rébellion de l'homme et par les assauts des puissances des ténèbres. Il sait que quand bien même il viendra régner sur ces terres, il sait que la création est marquée, connaît toutes les réalités. Mais il n'est pas un défenseur de l'environnement. Non. Il sait. Du reste, il a prévu qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ce qui préoccupe le Seigneur, c'est le sort éternel des âmes. Voyant les foules, il est ému de compassion. Il les voit fatigués et abattus. Les foules, dans le mot « foule » tel qu'il est employé dans la Bible, « oklos » en grec, ce n'est pas simplement un amas de personnes ou homogène, non. C'est un ensemble, un groupe hétérogène de toutes sortes de personnes. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des riches, des pauvres, de toute langue, de toute tribu, de toute race. C'est ça, les foules que le Seigneur voit. En d'autres termes, il voyait les foules d'Israël, mais il voyait aussi bien les foules après. Aujourd'hui, les foules, vous conviendrez avec moi que les foules des années 30, après Jésus-Christ, il faut les multiplier au moins par 1000 par rapport aux foules des années 2000. 2022. Il y a des foules partout. Et le Seigneur veut que des disciples, des chrétiens convaincus, les atteignent. Il les voit fatigués et abattus. Encore que ça, c'est la version Louis II. J'essaie de lire d'autres versions. Fatigué, abattu, découragé, déprimé, harassé, c'est-à-dire fatigué à l'extrême, prostré, abattu physiquement et mentalement, découragé, égaré, dispersé, errant, mal nourri, sans soins spirituels. Donc, candidat pour l'enfer, candidat pour la mort éternelle. Voilà, le Seigneur voit, quand il regarde le monde, et même quand il regarde l'Église telle que nous sommes là, il voit ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ses entrailles sont émues par rapport à ces foules. Son amour est troublé. Le Seigneur ne voit pas le monde et les foules comme les politiciens. Les politiciens voient les foules en termes d'électorat. Quand ils regardent bientôt, dans une année, il y a des gens, je ne vous choquerai pas en vous disant que dans une année, il y a des gens qui regarderont cette multitude comme un électorat potentiel. C'est comme ça que les politiciens voient les foules. Des gens qui doivent leur donner le suffrage. Ils ne regardent pas les foules comme des hommes à exploiter, comme les entrepreneurs véreux. Ils ne regardent pas les foules comme un fermier regarderait ses bêtes. Ça, c'est la vision du diable. L'amour du fermier va bien nourrir la bête, va bien nourrir la vache ou la poule, mais pour, après avoir extrait le lait et pris les œufs, finira par abattre la poule et la consommer. Finira par abattre la chèvre ou la vache. Ça, c'est le diable. Alors, si vous connaissez des gens qui sont encore dans l'occultisme autour de vous, faites-leur comprendre que les diables les trompent. Il les présente un amour du fermier qui finira par les détruire. Jésus aime profondément ses foules. Il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. » Le chrétien convaincu rejoint le Seigneur dans sa vision du monde. « Moi, je suis sauvé. Qu'est-ce que je dois faire pour ce que j'ai afin que ce que j'ai reçu, le plus grand nombre autour de moi le reçoive aussi. Mes enfants, mon mari. Alléluia. C'est pourquoi le meilleur terrain d'évangélisation, c'est la famille. Moi, je rends grâce au Seigneur. J'ai été gagné parce que j'ai un grand frère qui a été courageux, qui s'est levé, qui m'a amené au Seigneur et qui en a amené plusieurs autres dans la famille. Le chrétien convaincu rejoint le Seigneur dans sa vision des âmes. Et deuxièmement, le chrétien convaincu qui fait avancer le royaume de Dieu est celui qui, après avoir rejoint le Seigneur Jésus dans sa vision, le rejoint dans l'appel qu'il adresse à ses disciples. Alléluia. Le chrétien convaincu rejoint le Seigneur dans l'appel qu'il adresse à ses disciples. Nous sommes toujours dans notre texte de Matthieu 9. Quel appel il adresse à ses disciples? Premier appel, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez pour les âmes perdues. Nous ne le dirons jamais assez. Avant de parler du Seigneur à une personne, parlez d'abord au Seigneur de cette personne-là. Alléluia. Je répète, avant de parler du Seigneur à une personne, prenez soin de parler de cette personne-là au Seigneur. Quoi de plus normal? La prière pour la moisson. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. D'un côté, j'aime bien si les Grecs ils présentent cela. D'un côté, grande moisson. De l'autre côté, peu d'ouvriers. Un contraste. Grande moisson, mais peu d'ouvriers. La moisson, c'est la récolte. Et la récolte obéit à un principe. Lorsqu'elle est prête, et s'il n'y a pas d'ouvriers, elle tombe et elle périt. C'est tout. Lorsque la moisson est prête, elle est mûre, il n'y a pas d'ouvriers, ben elle va tomber, elle peut, elle périt. Nous avons des manguiers, des arbres fruitiers, n'est-ce pas? Voyez les belles mangues, bientôt vous en verrez. Eh bien, quand elles mûrissent, il n'y a personne pour aller les cueillir. Ou lorsqu'elles sont à un niveau difficilement accessible. Mais elles tombent et puis elles pourrissent. Et les âmes se perdent. Bien sûr, nous ne sauverons pas tout le monde. Dieu le sait. Il a dit, large et spacieuse, la porte qui mène à la perdition et à l'enfer, et nombreux sont ceux qui y entrent, étroite et resserrée le chemin qui mène au ciel, et peu nombreux y entrent. Plusieurs rejetteront l'évangile, mais cela ne nous dédouane pas de notre obligation de partager l'évangile. Alléluia. Et avant de partager, commençons d'abord par la prière. Commençons par la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Ne négligez pas la prière. Priez pour vos familles, priez pour vos proches, priez pour ceux qui vous entourent, et priez pour vous-même que le Seigneur vous aide. Le Seigneur a besoin des disciples qui se rendent disponibles pour prier, qui le rejoignent dans cet appel. Alléluia. Des gens qui le rejoignent, des chrétiens convaincus. Quand on a une vision convaincue, on peut prier. Quand on n'est pas convaincu, c'est lourd de prier. Où on prie de manière formelle. Le Seigneur veut que nous allions plus loin. Je l'ai dit, un chrétien qui ne partage pas sa foi, c'est un chrétien qui n'expérimentera pas des percées. J'y reviendrai. Le chrétien convaincu, deuxièmement, rejoint le Seigneur dans son appel à évangéliser, à partager la parole. À proclamer l'évangile. Non, ça c'est le troisième point. Vous pouvez enlever, technique. À évangéliser. C'est le deuxième appel. Nous sommes encore là. Jésus traversait avec ses disciples toutes ces contrées, de la Galilée, de la Pérée et tout. Et il va leur parler, il va leur demander. Priez le maître de la moisson. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Au chapitre 10, premier verset, il choisit les disciples. Alléluia. Il choisit parmi ceux qui ont prié. Il choisit ceux qui étaient autour de lui. Et ceux-là devaient maintenant le rejoindre dans l'appel à aller évangéliser. Alléluia. Dieu n'ira pas toujours très loin. Bien sûr, Il peut utiliser quelqu'un de loin, mais d'abord, il a besoin de notre disponibilité. Alléluia. Il a besoin des gens disponibles. La moisson est abondante. Abondante. Dans nos maisons, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos universités, dans les hôpitaux, dans les divers lieux de travail, les marchés, partout. La moisson est là, partout. Mais il faut des personnes disponibles. Il faut des chrétiens convaincus que ce qu'ils ont, c'est le meilleur et qui sont prêts à partager leur foi. Personnellement, dans le contact individuel. C'est pour cela que les relations interpersonnelles sont très importantes. C'est bon pour un chrétien d'avoir un bon témoignage. Et la Bible nous le dit, ayez un bon témoignage parmi les gens du dehors, afin que quand Dieu va les visiter, ils puissent rendre grâce au Seigneur. Et les chrétiens qui ont un bon témoignage savent tisser ce qu'on appelle des ponts et des passerelles pour annoncer l'évangile, c'est-à-dire se servir des faits, des problèmes des uns, de certaines réalités pour introduire l'évangile du salut. Et non des chrétiens compliqués qui dressent des murs. Non, Dieu ne nous demande pas de dresser des murs et des forteresses. Non, de dresser des ponts et des passerelles parce que nous devons communiquer l'évangile. Et j'aime bien ce passage de 1 Pierre chapitre 3, les deux premiers versets. 1 Pierre chapitre 3, oui, ok, la Bible nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. » Est-ce que vous avez tous bien lu? Il est possible de gagner sans parole. C'est la Bible. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Ça, c'est le témoignage personnel. La puissance du témoignage personnel. Oui, le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens convaincus, tellement convaincus que notre vie est impactée et ensuite elle impacte les autres. Les meilleurs outils de communication pour annoncer l'évangile, c'est notre manière de vivre et nos paroles. Notre manière de vivre et nos paroles. Et troisièmement, le chrétien convaincu qui fait progresser le royaume de Dieu, qui fait avancer le train de l'évangile, est celui qui rejoint le Seigneur dans la proclamation de l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Proclamer l'évangile sous la puissance de l'Esprit. Il n'est pas simplement question d'avoir une chair pour parler de l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit. Non. Même à une personne, même à votre voisin, vous pouvez parler sous la puissance du Saint-Esprit. Je retourne dans le passage de Matthieu. Là, je vais un peu au chapitre, toujours au chapitre 10, à partir du verset 7. Le Seigneur a choisi les disciples. Après leur avoir demandé de prier, ils l'ont rejoint dans l'appel à la prière. Et voilà ce qu'il leur dit au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. L'évangile doit être proclamé sous la puissance du Saint-Esprit. Non avec timidité, non avec gêne, mais avec puissance. C'est cet évangile qui fait avancer le royaume de Dieu. C'est cette puissance du Saint-Esprit qui nous a transformés nous-mêmes. Et c'est cela que nous voulons partager, comme cet enfant simplement. À 16 ans, il saisit. J'ai été transformé. J'ai reçu Jésus. Je suis pleinement convaincu que si je meurs, j'irai au ciel. Et je n'hésite pas. Je sais que papa et maman, si vous mourrez dans cet état tel que je vous connais, vous irez en enfer. Il n'a même pas douté, pas hésité, n'a pas été diplomatique. N'a pas été diplomatique. Avec sa fougue de jeunesse, il dit à ses parents, si vous continuez, moi je veux que vous alliez au ciel, mais sinon, vous irez en enfer. Y a-t-il quelqu'un encore dans cette salle sur qui ces paroles résonnent encore? Si tu continues avec cette vie, tu iras en enfer. Si tu continues avec cette vie de débauche, les quelques fois où tu as mis les pieds à l'église ne te sauveront pas. Tu iras en enfer. Rejoins le Seigneur. Vous qui nous suivez à la radio ou qui nous suivez par les réseaux sociaux, si vous continuez à vous noyer dans le péché, vous irez en enfer. Mais le Seigneur est patient. Il veut que vous soyez sauvés. Alors, repentez-vous. Oui, la repentance demeure la clé qui ouvre au royaume des cieux. Il n'y a pas une autre porte. Alléluia. Il n'y a pas une autre clé pour ouvrir au royaume des cieux, c'est la repentance. Et c'est ce message qui doit être prêché. Jésus l'a prêché, Jean-Baptiste l'a prêché, les disciples la première heure l'ont prêché, comme je l'ai dit, les pères de l'Église l'ont prêché, les réformateurs l'ont prêché, les missionnaires l'ont prêché, les revivalistes l'ont prêché, et nous continuerons à le prêcher. La repentance, c'est cela. L'apôtre Paul dit, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Nous voulons réconcilier les hommes avec Dieu le Créateur. Alors il faut apporter la parole de la réconciliation. Ce n'est pas que Dieu doit s'adapter à notre manière de faire, non, c'est nous qui devons nous humilier, reconnaître notre état de péché. Tout homme est pécheur, c'est ça le contenu du message du salut. Tout homme est pécheur, privé de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit, c'est la vie éternelle. Romains 6. 23 aussi, ces deux versets, 3.23, 6.23, nous devons les garder. Savoir que tout homme est pécheur. Il n'y a pas de petit pécheur, grand pécheur, dénominateur commun, pécheur. Amen. Et tout pécheur a besoin du salut. Le pasteur nous a donné une belle illustration. Même par Ces feuilles, nous pouvons reconnaître les manguiers, même s'ils ne donnent pas de fruits. Mais nous savons qu'il est manguier. C'est ça l'homme. Parce que c'est un homme, donc c'est un pécheur. S'il n'est pas réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, le chrétien convaincu proclame ce message du salut. Il proclame que nous devons accepter l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Le chrétien, le salut que le Seigneur propose, c'est un salut exclusif. Traitez-nous de tous les noms, peu importe, mais nous croyons en la Bible. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle la vie, c'est Jésus. En dehors de lui, nul ne vient au Père. Jean 14, 6. C'est ce message que nous devons annoncer. Il est mort à la croix pour les pécheurs. Et nous devons demander aux hommes, comme l'apôtre Paul, « Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Abandonnez toutes sortes de péchés et confiez-vous au Seigneur. La puissance dans l'annonce de l'Évangile aussi accompagne le chrétien convaincu. C'est pourquoi le chrétien convaincu n'a pas peur de prier pour les malades. Nous l'avons lu et l'ordre missionnaire tel qu'il est repris dans Marc chapitre 16, verset 15, dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira sera sauvé et sera baptisé. Si on peut m'envoyer les textes, je vais le relire tel qu'il est pour ne pas le paraphraser. Marc 16, à partir de 15. Qui rejoint aussi Matthieu chapitre 19. Allez prêcher par tout le monde, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, continuez. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les chrétiens convaincus, c'est que quand ils annoncent la parole de Dieu, tous ces signes l'accompagnent. Amen. Il n'a pas peur de prier pour les malades. Il n'a pas peur de prier pour divers problèmes. Le Seigneur a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Sa présence est là. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir a été donné. Et il nous envoie, revêtu de puissance, revêtu de pouvoir, revêtu d'autorité, revêtu de force. Alors la question qui se pose, sommes-nous des chrétiens convaincus ou des chrétiens vaincus? Soit on est chrétien convaincu, soit on est vaincu. Inefficace. Tiède. Collabo. Facilement influençable par l'ennemi. Au point de devenir une pierre d'achoppement pour les autres chrétiens. Au point de devenir un contre-témoignage pour les autres chrétiens. Chrétiens collabo. C'est comme ça qu'on appelait pendant la Seconde Guerre mondiale les originaires d'une nation envahie, mais qui collaboraient avec les envahisseurs. On s'est dit chrétien, mais On est collaborateur, influencé par l'ennemi. Non, le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Si vous êtes encore un pied dedans, un pied dehors, sortez de cette manière de faire et rejoignez le Seigneur. Sinon, vous irez en enfer. Nous l'avons dit. Le péché du chrétien ou la vie du péché de celui qui prétend être chrétien n'est pas différente du péché du païen. Non. Inscrivons-nous dans cette dynamique de manière à faire avancer le train du royaume des cieux. N'attendons pas des réunions ponctuelles. Oui, nous en aurons des activités ponctuelles. Mais n'attendons pas. Impliquons-nous dans cette dynamique. Nous ne ferons pas tout le travail, mais nous ferons au moins notre part. Saisir les occasions que le Seigneur mettra devant nous. Baissons la tête dans la prière. Je vais lancer un premier appel au salut. Vous êtes là. Vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Et certainement, si vous mourrez aujourd'hui, vous irez en enfer à cause de la multitude des péchés, à cause des choses que vous faites, de la vie que vous vivez. Le Seigneur est amour. Ses entrailles de miséricorde sont émues pour vous. Il vous aime. Si vous êtes là, alors que nous avons les têtes baissées, vous pouvez lever votre main. Là où vous êtes, au chapiteau, au hangar, nous allons prier avec vous et vous introduire dans cette nouvelle vie, vous aider. Car nous aussi, nous avons été aidés. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre cet engagement de marcher avec le Seigneur, d'abandonner toute vie de péché et de vivre en chrétien convaincu et non plus en homme vaincu? Si c'est votre cas, là où vous êtes, vous pouvez lever votre main. Nous allons prier avec vous. Merci. Merci pour ces mains. C'est devant le Seigneur que vous le faites, non pas devant les hommes. Veuillez prier avec nous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais mon état de pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je reconnais que tu es mort à la croix pour me sauver. Pardonne, ô Dieu, tous mes péchés. Lave-moi par ton sang qui a été versé. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci d'entrer dans ma vie et de faire de moi une nouvelle créature.